11h midi, seul, contre tous,
Sud Radio,
Dimitri Pavlenko.
Bonjour à tous, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, on continue la matinée ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi. Et ce matin, dans Seul contre tous, on va parler des référendums locaux. Vous avez peut-être entendu François Hollande hier, devant la conférence environnementale réunie à l'Élysée. Le chef de l'État, conscient, dit-il, des limites qui existent aujourd'hui dans le débat démocratique, estime que l'on doit tirer les leçons du drame de Sivens dans le Tarn qui a conduit à la mort du jeune militant Rémi Fraisse. Que se serait-il passé si, avant les premiers coups de pelleteuse pour construire le barrage, il y avait eu une consultation populaire sur le projet? Et si on associait les habitants à la décision de construire ces fameux grands projets qui constituent pour leurs opposants des dénis de démocratie? C'est pourquoi, dans ce genre de situation, François Hollande prône le recours à des référendums locaux. Le référendum local, outil politique qu'on connaît mieux pour les grandes décisions concernant le pays. Mais eh bien, ça existe aussi à usage local. Le référendum, ça donne l'illusion aux votants qu'ils prennent eux-mêmes la décision. Mais ne nous y trompons pas. Le référendum local est malheureusement à l'usage presque exclusif des élus. Vous votez moins pour décider vous-même que pour conforter celui qui vous consulte. Pensez-vous d'ailleurs que celui-là, l'élu, vous appellera à vous prononcer s'il pense qu'il perdra? François Hollande prône donc le référendum local pour résoudre des crises. Ça, c'est un petit peu la mythologie du référendum. On en parlera tout au long de l'émission. On fera aussi un petit peu d'histoire pour rappeler par exemple qu'au début de la Troisième République, à la fin du XIXe siècle, des élus proposaient de généraliser l'usage des référendums locaux. Des élus monarchistes et boulangistes. Tiens, tiens. Bref, en tout cas, moi je n'y crois pas trop au référendum local, en tout cas s'il reste un outil à la seule disposition des élus. Et pourquoi pas des référendums d'initiative populaire plutôt. François Hollande aurait pu nous en parler un petit peu hier. Bref, je suis plutôt sceptique sur l'usage des référendums locaux. On en parle ce matin dans Seul contre tous. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes pas d'accord? Vous intervenez dans le débat. 0826 303 115 centimes la minute. Vos commentaires sur les réseaux sociaux. Et vous votez sur sudradio.fr.
Seul contre tous.
Seul contre tous.
Sud Radio. Dimitri Pavlenko.
Des référendums locaux pour désamorcer les crises type Sivens, voilà ce que propose François Hollande. Des référendums locaux, bref, pourquoi pas. Je n'y suis pas opposé, néanmoins je me pose la question de la pertinence de ces référendums. S'ils sont réservés à l'initiative des élus, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt les ouvrir à l'initiative populaire? Et ça, François Hollande ne nous en a pas parlé hier. Donc on va, nous, eh bien, faire le débat ce matin dans Seul contre tous avec nos invités dans un instant. Mais avant cela, on accueille Kevin Michel. Bonjour Kevin.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors Kevin, le référendum local, alors là on se lance dans un sujet technique assez complexe.
Très complexe.
Il y a une histoire du droit autour du référendum local dans laquelle on va tenter de se pencher. On ne va pas vous noyer, rassurez-vous. En quoi ça consiste un référendum local?
On va essayer de faire simple. Un référendum local permet aux électeurs, sous certaines conditions, de décider par leur vote de la mise en œuvre ou non d'un projet concernant une affaire locale, tout simplement. Il peut s'agir par exemple de la création d'une police municipale, du choix du nom des habitants d'une commune ou encore de l'installation d'un barrage comme à Sivens par exemple.
Alors concrètement, comment ça se déroule, Kevin?
Peuvent être appelés à voter les électeurs et non pas l'ensemble des habitants. L'exécutif local est seul compétent pour proposer à l'Assemblée délibérante l'organisation de ce type de référendum. Le représentant de l'État, généralement le préfet, peut s'opposer à ce projet. À noter enfin que les dépenses liées à l'organisation du référendum sont à la charge de la collectivité organisatrice.
Alors François Hollande semblait redécouvrir le référendum local. Il s'agit en réalité d'une idée plutôt ancienne. Ça parcourt en tout cas toute l'histoire de la République.
Alors, le référendum, lui, existe depuis le 19e siècle, mais il est resté absent de nos institutions pendant longtemps, discrédité par la tradition républicaine et représentative pour son usage bonapartiste. Pour revenir sur ce qui nous intéresse, à savoir le référendum local précisément, il a été rendu possible par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République. Depuis, il est ouvert à toutes les collectivités territoriales.
Alors, le référendum local reste plutôt rare quand même dans l'histoire de France, Kevin. Citez-nous quelques exemples de référendums locaux récents en France.
Le premier date du 6 juillet 2003. Il était relatif à la réforme du statut de la Corse. Une réforme qui proposait notamment une fusion des deux conseils généraux de Haute-Corse et du Sud au sein d'une collectivité territoriale unique. À l'époque, le non l'avait emporté avec près de 51% des voix. En décembre de la même année, année, la Guadeloupe et la Martinique ont rejeté le projet de réforme constitutionnelle préconisant la création d'une collectivité administrée par une assemblée unique se substituant aux départements et aux régions actuelles. En revanche, Saint-Barthélemy et Saint-Martin avaient choisi de devenir des collectivités d'outre-mer à part entière. Enfin, dernier exemple, celui du 7 avril 2013, hein, c'est le dernier donc, et qui permettait de répondre à la question « Approuvez-vous le projet de création d'une collectivité territoriale d'Alsace par fusion au Conseil régional du Bas-Rhin et du Conseil général du Haut-Rhin ?» Pas très passionnant tout ça.
Alors en tout cas, pas très passionnant, ça c'est vous qui le dites, hein, on ira parler de ça aux Alsaciens, Kevin. Néanmoins, c'est pas pour ce type de consultation, c'est pas à ce type de consultation que François Hollande pensait lorsqu'il envisageait la multiplication de référendums locaux. C'est plutôt pour quel type de projet lorsqu'il parle par exemple du barrage de Sivens?
Alors le chef de l'État dit avoir tiré des leçons du drame de Sivens et veut avoir recours à ce procédé pour des projets d'aménagement du territoire conduisant à des situations de blocage. François Hollande a également annoncé que le gouvernement ferait d'ici 6 mois des propositions en matière de démocratie participative sur l'impact écologique de tels projets. Il se dit conscient des limites qui existent aujourd'hui dans le débat démocratique.
Alors Kevin, vous faites partie des sceptiques quant à l'usage, disons plus régulier, des référendums locaux.
C'est à mon sens le dernier symptôme de l'impuissance de nos politiques, le symbole d'une paralysie finalement, quand un président de la République affirme que la démocratie participative en matière d'environnement doit devenir la règle. On sent bien que c'est parce qu'il est incapable de prendre une décision sur un sujet extrêmement sensible politiquement, celui de l'environnement, face à des sujets compliqués à gérer quand on considère qu'on a besoin de légitimation du peuple et qu'il est bon d'impliquer un maximum de parties prenantes. C'est qu'on est un peu frileux, c'est incontestable. Je ne reviens pas sur le barrage de Sivens, tant contesté. La vérité, c'est que les décisions auraient dû se prendre il y a bien longtemps déjà. Certains experts proposent d'autres types de consultations, notamment un dialogue social entre différents acteurs représentatifs, comme par exemple les associations, les représentants d'ONG ou encore de la société civile. Par cela, le gouvernement donnerait au moins l'impression d'assumer un peu ses responsabilités et de ne pas refiler la patate chaude finalement aux citoyens qui n'ont pas forcément envie de voter tous les dimanches pour ou contre le barrage du coin. Quand on sait que le taux d'abstention aux dernières municipales était de plus de 36%, un record, on a quand même du mal à imaginer que ce type de référendum déchaîne les passions.
Eh bien, on va en parler ce matin. Merci Kevin Michel. Avec nos invités, Gérard Onesta, conseiller régional Europe Écologie Les Verts. Bonjour Gérard Onesta.
Bonjour.
On vous avait reçu précisément pour parler déjà du barrage de Sivens, ce qui nous offre donc le prétexte pour aborder cette question des référendums locaux. Avec nous également Stéphane Beaumont, professeur de droit constitutionnel à l'Université Toulousain Capitole. Bonjour Stéphane Beaumont.
Bonjour.
Alors, je commence par vous. C'est vrai que l'histoire des référendums locaux, c'est une histoire de constitutionnalistes. C'est extrêmement compliqué à regarder le droit. Il se trouve qu'on a une loi organique dont Kevin Michel a parlé, de 2003, qui rénovait un petit peu l'emploi et le fonctionnement des référendums locaux. Alors moi, première remarque, je constate qu'effectivement, on laisse surtout entre les mains de l'élu l'emploi de cet outil-là, le référendum d'initiative populaire, la suggestion d'en organiser un à l'initiative des citoyens, ça reste très compliqué.
Oui, c'est effectivement compliqué. C'était déjà inscrit dans les lois de décentralisation en 1992. C'était déjà inscrit dans la jurisprudence de la Troisième République du Conseil d'État. Et c'est inscrit donc à l'article 72-1 de la Constitution, c'est-à-dire la loi que vous avez rappelée tout à l'heure, la loi du 28 mars 2003. L'article 72-1, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire un cours de droit constitutionnel, entend renforcer la démocratie locale en instaurant 4 mécanismes distincts de démocratie directe avec le droit de pétition, le référendum local décisionnel, c'est comme ça qu'on l'appelle, ensuite la consultation en cas de création ou de modification du statut d'une collectivité territoriale à statut particulier, enfin la consultation et la modification des limites territoriales des collectivités. Voilà le point de vue du constitutionnaliste, voilà, rappeler ce que dit la Constitution dans son article 72. Donc contrairement là, un peu à ce que dit le chef de l'État, qui est un opportuniste en l'occurrence et qui mélange un peu les genres, le référendum local existe, il est peu employé. Je voudrais rappeler
C'est ce qui semblait
quelques
vouloir
chiffres
dire, hein,
très rapidement.
Il ne propose pas de créer quelque chose, juste d'y recourir plus régulièrement.
Sur 799 référendums nationaux ayant eu lieu dans le monde jusqu'en 93, 414 se sont déroulés en Suisse et 149 dans le reste de l'Europe et 49 pour le total de l'Amérique du Nord et du Sud. On voit bien que le pays du référendum, c'est celui de Rousseau, c'est celui de la Suisse. Alors je ferai simplement un premier commentaire. Parmi ces démocraties qui utilisent le plus le référendum, c'est-à-dire la Suisse et les États membres des États-Unis et d'Italie, on remarque certaines tendances. L'abstentionnisme est souvent important, c'est la limite au référendum local. L'intérêt de la question est souvent très variable. Les décisions adoptées ne vont pas toujours dans le sens de la sagesse. Ainsi, du référendum italien de 1987 sur la responsabilité civile des juges, ni du progrès. Rappelez-vous, la Suisse fut la lanterne rouge en Europe pour le droit de vote des femmes. Donc, on a l'illusion d'une démocratie directe qui a toujours été dans le discours du politique pour faire plaisir en période électorale à l'opinion publique. Il y a la réalité d'une crise de la démocratie représentative, crise qu'on n'arrive pas à régler, crise que les gouvernants de gauche et de droite n'arrivent pas à régler, et donc on regarde du côté de la démocratie directe, mais l'Agora ne comptait que quelques milliers de personnes, elle ne comptait pas des millions d'électeurs, et il ne faut pas non plus que le référendum d'initiative locale ou d'initiative populaire soit le véhicule, soit le moteur de populismes locaux et de populismes locaux qui appellent ensuite, malheureusement, un populisme national.
Et c'est l'exécutif local, en plus, qui est seul à pouvoir demander ce
genre
de référendum.
Oui, puis c'est limité, en plus, la Constitution limite.
Voilà, absolument.
Et
vous disiez tout à l'heure, Dimitri, finalement, vous l'avez bien souligné, que finalement, si ça ne va pas dans le sens de l'exécutif local, on peut se poser la question de savoir s'ils feront systématiquement appel aux citoyens. Et ça, permettez-moi d'en douter.
Je crois que le président de la République a tort de laisser imaginer à l'opinion publique et à l'électorat que ces mécanismes de référendum n'existent pas.
Alors, moi, je
alors
pas
il,
tout
emploie,
à fait...
il emploie une autre appellation, effectivement,
qui
donne l'illusion d'une nouveauté.
Gérard Onesta, concernant, par exemple, le barrage de Sivan, moi, dans la formulation employée par François Hollande, quelque chose m'a surpris. Il dit, quand on arrive à une situation de tension telle que vécue sur le barrage de Sivan, s'il faudrait recourir au référendum local. Alors, déjà, peut-être, il y a cette mythologie du référendum qui permet de sortir de la crise. Il aurait peut-être fallu y penser avant lancer les pelleteuses.
Je ne vous cache pas que pour les écologistes, la déclaration du président Hollande nous a laissé un petit peu perplexes. Non pas sur le fait qu'il puisse y avoir des outils de démocratie participative, dont le référendum local, qui puisse être mieux utilisé. Ça fait partie des 9 points de la loi que nous allons bientôt déposer pour revoir entièrement cette notion d'utilité publique. Donc ça ne pose pas de problème a priori. Mais la façon dont il présente me laisse pour le moins dubitatif. D'abord, parce que ça s'appuie sur l'article de la Constitution qu'a cité le professeur Beaumont, qui au passage dit que la loi va préciser, notamment pour le droit de pétition, la façon dont doit se dérouler. La Constitution date de 2003, nous sommes en 2014, 11 ans plus tard, la loi n'est toujours pas écrite. Donc vous ne pouvez pas exercer, vous, chers amis, un droit constitutionnel, puisque rien n'a été prévu depuis 11 ans. Je ferme la parenthèse et dire à quel point, avant de s'intéresser...
Mais c'est une parenthèse importante, vous ne devriez même pas le mettre entre parenthèses.
Oui, c'était une façon de la mettre en exergue, que de la mettre entre parenthèses. Donc, c'est vous dire qu'on est en train de prendre par le petit bout de la lorgnette un besoin de remise à plat de mécanismes démocratiques. Deuxième point que vous soulevez, il l'a dit, en cas de conflit. Je ne suis pas sûr que c'est justement en cas de conflit qu'il faut requérir à cette arme qui est difficile à manier. D'abord parce que ça veut dire que pour obtenir un référendum, il va falloir faire le conflit. Donc je suis avec un projet qui ne me plaît pas, excusez-moi, je dois bordéliser le secteur pour être sûr de pouvoir me faire entendre. Alors que c'est censé éviter le conflit, ça va en créer. Et ensuite, le diable est dans les détails. Pour Sivens, on demande à qui de s'exprimer? Aux gens qui vont toucher l'éventuel plan de d'eau, c'est à la commune, c'est au département, aux deux départements concernés ou à tous ceux qui vont vous dire, mais attendez, la biodiversité m'appartient, même si je suis à 100 km de là, cette cathédrale de verdure n'appartient pas qu'aux 3 agriculteurs qui la jouxent. Donc on voit bien qu'à partir de là, d'une idée un petit peu sympathique, on peut ouvrir une boîte de Pandore et n'en plus finir. Alors vous avez raison, ça doit être un des outils de la boîte outils, mais c'est pas le seul. Par exemple, on pourrait dire que le référendum ne porte pas sur oui ou non le projet, mais sur différentes différentes alternatives. Ah oui, mais c'est que dans ces cas-là, il faut que la loi permette différentes alternatives, comme c'est le cas par exemple au Canada, oui. Où quand vous lancez un grand projet, il y a une partie de l'argent qui est gardée pour justement permettre à des opposants de montrer que des alternatives sont possibles, et ce serait beaucoup plus intéressant de choisir entre plusieurs alternatives plutôt que pour ou contre. Oui. Et enfin, dans le référendum, vous savez toujours qu'on répond souvent à qui a posé la question, est-ce qu'on veut le conforter, est-ce qu'on veut le contrarier, on voit toutes les manips politiques possibles locales. Donc, c'est un outil très intéressant, il faut l'aborder de manière sérieuse et le mettre dans une boîte à outils beaucoup, beaucoup plus complexe.
Alors, vous allez m'obliger à défendre le référendum local, parce que finalement, vous êtes assez d'accord pour vous montrer plutôt sceptique.
Non, une fois de plus, il faut le faire. Je vous dis, par exemple, s'en servir pour choisir entre plusieurs alternatives, c'est pas la même chose que de conforter ou pas, monsieur le maire. Vous voyez la nuance.
Je voudrais ajouter dans le cadre de l'histoire de ce barrage, elle est très symbolique, parce que les pouvoirs publics, les assemblées, le Conseil général, l'administration avaient pris leur décision. Cette décision donc avait été prise dans un cadre légal et réglementaire. Et pour la contester, eh bien, le contre-pouvoir écologiste est passé par des voies, entre guillemets, extra-légales.
Extra-légal, oui ou non. Quand on a fait appel, par exemple, au droit européen, qui, vous savez, professeur Beaumont,
est
supérieur au droit départemental, que je sache.
Mais pourquoi a-t-on attendu si longtemps pour faire intervenir le droit européen ?
On n'a pas attendu si longtemps. Ça fait 4 ans que nous avons interpellé via votre serviteur. Mais on voit bien que le droit européen est très lent. Et soyons clairs, la Commission européenne s'est réveillée maintenant parce qu'il y a eu sur place une médiatisation et des événements.
Elle n'a pas été réveillée par Monsieur Nesta, vous dites que finalement c'est un petit peu assis sur le droit, mais vous savez autant que moi, parce que vous avez quand même une expérience politique autrement plus importante que la mienne, que de toute façon sur un projet de ce type-là, si on veut le faire passer, on y arrive. La question du référendum, c'est un peu un écran de fumée.
Mais c'est scandaleux. Si vraiment ce que vous dites est vrai, Kevin, c'est quand même scandaleux.
Mais regardez en 2005 sur l'Europe, regardez, on a demandé aux Français de voter.
Je sais justement. Donc c'est pas.
Mais c'est pas le même type de référendum.
Certes, mais bon, ça c'est quand même représentatif.
Si fonctionne mal, qu'il faut renoncer à la rendre meilleure. Oui. Donc, essayons de voir comment on peut modifier ce mécanisme. Moi, je peux vous en donner deux ou trois exemples. Par exemple, si on sépare les organes qui proposent et les organes qui décident et les organes qui font, déjà, je peux vous dire qu'on règle le problème.
Ça,
si on donne la vérité sur les coûts pour qu'on ne parte pas d'un budget de 5 millions qui finit à 15, déjà, on sort la carotte qui pousse au crime d'aménager tout et n'importe quoi. Attention sur les référendums. Quand on a un projet comme Notre-Dame-des-Landes, on voit des enquêtes publiques qui sont fragmentées. Oui. Le pont qui est à 100 km de là, il est pour alimenter le futur éventuel aéroport, mais il n'est pas mis dans l'enquête publique. Donc, on fait un référendum sur quoi ? Sur le pont ? Sur l'aéroport ou sur l'ensemble. Vous voyez, c'est tous ces détails qu'il faut lancer. Je crois que M. Hollande ne s'est pas rendu compte de ce qu'il balançait au hasard d'une phrase devant un micro hier.
Alors là, je vois, c'est vrai qu'effectivement, le jour où on aura un référendum local, faut-il construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, n'est pas prêt d'aboutir. On va regarder justement dans l'histoire récente quelques exemples de référendums locaux qui vont nous permettre d'étayer la conversation. Vous aussi, vous participez au débat. Vous êtes pour, vous êtes contre ces référendums locaux. En ce qui me concerne, je suis plutôt sceptique, même si, on va le voir, il y a quand même quelques vertus quand même à ce système-là, parce qu'on parle de quoi là ? On parle aussi de démocratie participative, ce vieux serpent de mer de la politique française qui ressort quand ça va pas. Quand ça va pas, pour qui ? On continuera à se le demander tout au fil de l'émission. 0826 300 300, 15 centimes la minute. À tout de suite.
Seul contre tous.
Seul contre tous.
Sud Radio.
Sud Radio.
Dimitri Pavlenko.
François Hollande veut développer l'usage des référendums locaux, mais franchement, vous y croyez, vous, des référendums locaux pour décider de quoi ? Je vous donne quelques exemples concrets de référendums locaux qui ont été menés dans les 10 dernières années. Ezel, dans l'Aisne, le 19 juin 2006, programme d'aménagement d'un bassin versant. À Larnaud, dans le Doubs, en 2005, projet de carrière. Crozant, dans la Creuse, en 2006, démolition d'un bâtiment. Bon bref, vous voyez, on n'est pas sur de très grands enjeux. Toiré, dans Loire-Atlantique, 2005, création d'une police municipale. Et là, ça devient un petit peu intéressant parce que ça se corse, on arrive sur le terrain vraiment politique. Saint-Michel-sur-Orge, 2006. On invite les habitants de Saint-Michel-sur-Orge, en tout cas, à se prononcer sur le droit de vote des étrangers et leur éligibilité aux élections locales. Référendum annulé, par le tribunal administratif de Versailles. Et on constate que nombre de ces référendums locaux finissent, annulés par le tribunal administratif, ce qui pose quand même aujourd'hui la pertinence de la question et de la légitimité de ces référendums locaux. Gérard Onestin, on aurait fait un référendum sur Sivens, par exemple, sur le barrage de Sivens. Alors, sachant à qui on pose la question, vous l'avez bien souligné tout à l'heure, les gens du département, de la commune, des deux départements, l'ensemble des citoyens qui se sentent concernés par la question, pensez-vous que le référendum local puisse, comme cela, imposer sa décision, finalement, aux législateurs,
Mais aux politiques ? Il ne peut pas déjà venir en opposition aux droits fondamentaux. Imaginez demain qu'il y a quelque chose d'excessivement protégé par la loi, qu'elle soit nationale ou européenne, et qu'un référendum local décide « on n'en a rien à foutre, on va tout casser ». On va nous dire « ah ben c'est la voix du peuple ouais. ». Oui, mais est-ce que la voix de ce petit peuple-là local a vocation à nier les droits fondamentaux de protection de la nature, de la santé, des droits humains, voilà.
Et un seul peuple.
Et en plus, il y a un seul peuple. Donc il faut quand même qu'il y ait une hiérarchie des normes pour qu'on ne parte pas dans le populisme le plus total.
En admettant, par exemple, qu'on ait voté contre ce projet du barrage de Sivens par un référendum local, est-ce que vous pensez vraiment qu'on aurait pu faire respecter cette décision prise par le peuple, et est-ce qu'on n'aurait pas eu quand même des zadistes pour occuper, pour dire non, bah nous on est contre malgré tout. Moi je suis un peu sceptique sur cette question, je pense pas que
voilà
ça empêcherait.
Voilà pourquoi il ne faut pas faire de référendum pour ou contre, mais des référendums pour et pour. C'est-à-dire vous êtes plutôt pour cette solution ou plutôt pour celle-là. Parce que les zadistes sur place ne contestent pas le fait qu'il faut une gestion de l'eau dans la vallée, mais pas en détruisant une zone protégée, pas en siphonnant les budgets publics, pas en faisant des montages qui sont absolument scandaleux avec des conflits d'intérêts à
mais
tous les étages.
C'est très compliqué pour les citoyens lambda.
Mais je suis compliqué.
Je suis pas certain si vous voulez que les Français s'intéressent à ce genre de questions, à part pour les gens qui sont extrêmement sensibles. Vous prenez le Français moyen, à mon avis, il s'y perd un peu dans tout ça sur ces questions de l'eau, etc. À mon avis, il n'ira pas voter.
Alors là, vous essayez de faire désespérer de la démocratie. Moi, je considère que la démocratie est quelque chose de complexe.
J'en désespère un peu.
Mais qui peut être très intéressant quand c'est bien expliqué, parce que les gens à travers le barrage Sivens, qui est devenu un symbole maintenant national, voire international, redécouvrent beaucoup de choses. Redécouvrent le poids d'une directive européenne, redécouvrent le montage financier, redécouvrent le fonctionnement des assemblées, où les élus des assemblées émargent également à l'agence de l'eau, là-bas, à la compagnie des coteaux de Gascogne, etc. Donc, c'est aussi une façon de faire progresser l'idéal démocratique global. Moi, je ne désespère pas du citoyen, encore faut-il l'intéresser. Alors, au départ, ce sera peut-être difficile. En banalisant ce genre d'outils, on va se rendre compte que peut-être les gens seront intéressés.
Stéphane Beaumont, vous voulez réagir.
Oui, Monsieur Onesta change la définition du référendum puisqu'il ne propose plus une réponse par oui ou par non, mais par plutôt pour ou plutôt contre.
Un choix entre plusieurs alternatives.
Je crois que c'est difficile. C'est ou oui ou non, et c'est d'ailleurs le problème de tout référendum, c'est qu'au plan national comme au plan local, on peut aboutir à une situation populiste ou plébiscitaire.
Mais rien n'empêche d'être
Le deuxième élément, si vraiment le président Hollande veut mettre au point son référendum d'initiative populaire, il faut qu'il modifie la Constitution. Oui. Il faut qu'il la fasse réviser, et notamment l'article 72-1, dans ce que nous appelons tout à l'heure le référendum local décisionnel.
Voilà.
Et donc,
serait l'occasion de faire le pour.
Est-ce que
pour
c'est
tel
un signe que François Hollande veut, sur un thème populaire et bientôt populiste, réviser la Constitution et trouver un moyen de redresser une cote de popularité facilement?
Oui.
Enfin, c'est une question qu'on doit se poser.
C'est
une prise de position politique relativement facile, puisque dans un premier degré, elle fait plaisir à l'électorat.
C'est exactement ça.
Mais comme on vient de le dire, Monsieur Onesta et moi-même, à l'instant, on voit les difficultés techniques, donc constitutionnelles, d'une telle opération. Et il serait curieux qu'un référendum national soit lancé pour comprendre la volonté des Français de faire plus de référendums locaux. Ça serait vraiment
un référendum sur le référendum.
Un référendum sur le référendum.
Ah, bah voilà, une idée de sujet pour mon grand référendum.
En sachant que le référendum local est également bridé dans sa période où il peut être utilisé. Ouais. Vous ne pouvez pas le faire un an avant les élections et un an après les élections. Prenez le mandat, par exemple, d'un conseil régional qui, en l'occurrence, le nôtre, était à théoriquement de 4 ans. La première année, c'était interdit. La dernière année, c'était interdit. Vous aviez juste un petit créneau de 2 ans au milieu. Donc, si votre projet n'est pas dans ce créneau-là, ben, vous ne pouvez pas utiliser ces méthodes-là.
D'ailleurs,
donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses à regarder.
Constitutionnellement, on n'a pas le droit d'organiser un référendum 6 mois avant une élection. C'est
là-dessus. Mais non.
Après, Monsieur Onesta, moi, je me permets de vous dire quelque chose. Ne le prenez
permettez-vous.
Ne le prenez pas mal, mais j'ai un peu l'impression finalement que, quand je dis vous, c'est pas vous personnellement, mais que du côté d'Europe Écologie Les Verts, on n'est jamais content. Vous avez souvent crié pour finalement aller dans ce sens-là.
Absolument.
D'un référendum, etc. Aujourd'hui qu'on en parle, on a l'impression que ça va pas encore.
Non, je vous ai dit, c'est un des 9 points que nous demandons. Mais il faut pas oublier les 8 autres.
Il y en a 8 encore.
Voilà. Si on arrive qu'avec celui-là, on s'en sortira pas. Il faut qu'il y ait, par exemple, la capacité de suspension en cas de recours pour les acteurs qualifiés. Que n'importe Clampin du secteur se lève le doigt en allant voir le juge, il bloque tout. Non, ça, c'est pas normal. Par contre, que des associations genre Fédération France Nature Environnement, près d'un million d'encartés, ou des collèges scientifiques puissent dire attention, là, il y a un problème, on fait recours. Là, le recours doit être suspensif. Ouais. Et c'est quand on a épuisé tout ça que dans ce cadre-là, on peut voir un référendum. Mais un référendum qui peut être apaisé. Quand on dit un référendum, c'est forcément oui ou non. Quand on vote le dimanche pour élire, on ne dit pas je suis pour ou contre Sarkozy. On dit je veux Sarkozy ou quoi d'autre. Ça devient intéressant.
Là où je ne suis pas d'accord avec vous, Gérard Onesta, c'est quand vous dites, en gros, il y a des gens qui sont plus qualifiés que d'autres pour porter une contestation. Alors là, moi, je pense qu'il y a aussi, de la part des Français, une sorte de lassitude. La participation, on voit que ça s'érode, parce qu'il y a aussi ce caractère à la fois très, très procédural, très vertical des choses.
J'ai cité l'association, il tient qu'à vous, Dimitri, d'adhérer.
Oui, mais quelle est la définition, finalement, de la représentativité dans cette question? C'est ça, le problème.
C'est pour ça qu'il faut regarder les choses. Mais je vous signale que, pour l'instant, il y a des acteurs dits représentatifs. Quand la Chambre d'agriculture intervient, elle intervient escalité, repérée par la loi comme un acteur. Le problème, c'est que la Chambre en question, savez-vous comment elle est élue? Vous avez une voix de plus que tous vos opposants, vous raflez 75% du conseil. Donc vous voyez à quel point la perversion du système fait qu'ensuite la subtilité du débat, la richesse de l'expression citoyenne est totalement bridée. Donc il existe déjà des acteurs qualifiés. Il faut peut-être en revoir la liste et surtout la façon dont ils sont désignés.
Ça c'est clair. Stéphane Beaumont, vous voulez réagir aussi?
Oui, je voudrais réagir en me demandant si les propos du président ne montrent pas véritablement et pleinement la crise de la démocratie représentative.
C'est parce
qu'il y a crise et profonde crise de cette démocratie et curieuse légitimité d'un président qui est au plus bas dans les sondages depuis plus d'un an. Et notre démocratie ne permet pas de tirer les leçons d'une irresponsabilité politique et d'une illégitimité politique. Et je crois que ce qui serait intéressant, puisque M. Hollande est favorable au référendum, c'est qu'il trouve un référendum constituant pour savoir si le peuple français serait d'accord avant de passer à l'initiative populaire. Et on verrait bien à ce moment-là quel serait le résultat du référendum et pourquoi le verrait-on. Parce que comme au niveau local, on ne répondrait pas à la question posée par oui ou par non, mais on répondrait à celui qui l'a posée. Le général de Gaulle en savait quelque chose, en sut quelque chose le 27 avril 1969.
Alors attendez,
en perdant le référendum.
Ça veut dire qu'on poserait aujourd'hui la question aux Français. Êtes-vous pour la création, le rendre légal des référendums d'initiative populaire? François Hollande poserait cette question demain. Vous pensez que...
François Hollande poserait la question, prendrait position pour le oui. Et les Français
voteraient
non, non pas à la question posée, mais à celui qui l'a posée.
Je rappelle que l'Assemblée nationale peut aussi avoir l'initiative d'un référendum. Ça ne s'est jamais fait. Ça vient toujours du président dans la démarche très bonapartiste de notre
Il y a eu des propositions de loi référendaires, mais elles ont terminé au placard.
Ah, exactement. Mais le professeur Beaumont a raison de dire que tout ça est lié avec la maladie de notre démocratie représentative. Regardez, le Conseil général du Tarn, qui a voté donc pour Sylvain, sur un dossier qui était pipoté, ils l'ont voté sur ce qu'on a bien voulu, leur admettons. Mais qui compose le Conseil général du Tarn? Le mode de scrutin fait que c'est à la proportionnelle. Donc vous avez deux partis qui trustent 95% des sièges. Ils ne représentent pas 95% de la population, mais ils représentent 95% des sièges. Donc vous voyez bien qu'à partir du moment où, si on avait une assemblée élue à la proportionnelle qui représente les différentes sensibilités, certainement que les mécanismes d'alerte auraient fonctionné de manière bien différente sans avoir à se mettre face au bulldozer. Tout ça est lié.
Alors, j'en parlerai dans un petit instant, mais il se trouvait que cette semaine se tenait en région parisienne un colloque sur la politique de la ville. Et juste pour vous donner le ton des débats quand même, parce que ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on dit ce matin, Thomas Kirschbaum, sociologue, nous dit, en introduction, en propos liminaire à ce colloque sur la participation des habitants, il dit, à sa création, la politique de la ville, c'était dans les débuts des années 80, la politique de la ville s'était fixée pour objectif de démocratiser les institutions urbaines. 30 ans plus tard, nous voici réunis pour réfléchir sur la démocratisation de la politique de la ville. Voilà. On en est encore là. On en est encore là, 30 ans plus tard. Et on parle là de quoi? De démocratie participative. Et de comment les citoyens devraient participer activement à la politique aujourd'hui. Et on parle de la ville, mais ça, c'est valable pour tout le pays. Voilà ce dont on va continuer à parler dans un petit instant, seul contre tous. Nous parlons des référendums locaux, cet outil de démocratie participative voulu par François Hollande. Alors qu'en est-il réellement? Est-ce qu'il faut s'emballer pour cette idée? Ou est-ce que, dès le départ, eh bien, le débat est tronqué? Voilà ce dont on parle ce matin. 0826 300 300 15 centimes la minute.
Seul contre tous.
Seul contre tous.
Sud Radio.
Sud Radio.
Dimitri Pavlenko.
Le seul contre tous, je suis plutôt sceptique sur l'usage des référendums locaux que François Hollande prône pour éviter les situations de tension comme sur le barrage de Sivens. C'est en substance ce qu'il nous a dit hier en ouverture de la conférence environnementale à l'Élysée. En voilà une belle idée qui n'est finalement qu'une réactivation de choses déjà existantes. Les référendums locaux, on se rend bien compte que finalement ce sont des consultations où l'on répond davantage à celui qui la pose et bien qu'à la question elle-même. Et on accueille Jean-Louis Marty qui nous appelle. Bonjour.
Oui, bonjour Jean-Louis Marty, merci pour votre émission.
Eh bien, je vous en prie, vous êtes élu local vous-même, Jean-Louis Marty.
Je suis effectivement élu local et totalement concerné à titre d'élu, mais à titre également professionnel, puisque donc je suis agriculteur, un agriculteur raisonné dans la bordure du Tescou sur environ 500 mètres.
Ah, d'accord, donc quand on parle du barrage de Sivens, ça vous dit quelque chose, si je puis dire, Jean-Louis Marty?
Je dirais simplement que ça me dit tristement quelque chose.
Oui.
Parce qu'on est là dans un sujet très sociétal, et moi j'approuve totalement la prise de position d'hier de François Hollande pour le côté citoyen et participatif.
Mais alors, non, allez-y, je vous écoute.
Ce que je regrette, c'est que institutionnellement, les référendums, effectivement, c'est inscrit dans la Constitution. Mais c'est d'en parler, ça fait des années qu'on parle, Nicolas Sarkozy en son temps, Lionel Jospin en son temps, Jacques Chirac en son temps, a parlé effectivement du participatif sur les événements essentiels, notamment en matière de développement structurant et économique. Mmh. Et aujourd'hui, puisque si vous me parlez, je suis concerné. On m'a demandé un rôle de médiation que j'assume comme je peux, c'est pas aussi simple. Et si vous voulez, c'est de dire, tout d'un coup, la vallée du Tescou, le site de Sivens est devenu le centre du monde. Mmh. Je dirais non, c'est une question de survie économique. Voilà, je réponds tout simplement. Il est dommage que des enquêtes qui ont eu lieu au préalable n'aient pas justement, on se sent si peu au travers de la profession, peut-être sur le terrain, au travers des élus concernés, au travers simplement des citoyens responsables de tous les mouvements de sensibilité, que ce soit écologique.
Oui, oui.
On n'a pas fait exactement sur ce référendum. Attends.
Mais voilà, c'est ça, c'est la vraie question que posent les propos de François Hollande hier, Jean-Louis Marty, quand il dit qu'il faudrait multiplier les référendums locaux sur les projets, les grands projets pour éviter, quand les tensions apparaissent, comme ça s'est produit à Sivens. Voilà en substance ce qu'il a dit. Donc lui, il prend le référendum quand ça commence à aller mal, Jean-Louis Marty. On ne prend pas les choses à l'envers dans ce cas-là?
Absolument, je trouve qu'on est, je vous l'ai dit au départ, sur des projets reste des interventions sociétales. Mmh. Comme ça se passe en milieu helvétique, donc en Suisse, on appelle ça les votations. Ce n'est pas forcément des grands sujets d'actualité ou de société, mais les votations qui ne sont pas les mêmes sensibilités par rapport aux gens interrogés ou par rapport au devenir économique en territoire. Mais c'est indispensable aujourd'hui, parce que dans ce pays qu'on aime tous, dans une Europe exceptionnelle, avec des atouts exceptionnels, si l'on n'avance pas ensemble, avec un contact, avec une prise de contact et de la sensibilité du citoyen dans l'ensemble, on n'avancera plus. Nos jeunes n'attendent que ça. Nos politologues ne disent pas, mais à quelque part, aujourd'hui, on est en croisée de chemin. Ça peut être tout simplement un rejet de la politique dans notre pays. Mmh. Et c'est très grave. Et je pense que c'est une façon habile, intelligente et sereine. Et puis ça dégage un caractère très humble. C'est-à-dire, voilà, je vais au contact de la population, j'ai du ressenti, et après on met la machine des études en marche, voilà.
Dimitri, je voudrais juste réagir sur ce que M. Marty vient de dire. Quand il nous dit, moi j'approuve ce que François Hollande a déclaré hier, je suis désolé de vous le dire M. Marty, mais moi je n'approuve pas, parce que si François Hollande a fait ça, et si le gouvernement commence à parler de ces référendums locaux, c'est tout simplement parce qu'ils ont attendu que ça se passe mal à Sivens, qu'aujourd'hui ils se retrouvent bien embêtés avec ce dossier sur les bras, qu'ils sont incapables incapable de prendre une décision et que du coup, il refile la patate chaude en disant « bah s'il y a une décision, quelle qu'elle soit, de toute façon, ce ne sera pas de notre faute ». Ça, c'est une réalité, monsieur Marty.
Je ne rejette pas votre approche et votre thèse. Simplement, malheureusement, c'est de l'humain aujourd'hui dans notre vallée. Le décès de Rémi Fraisse est un drame. C'est dramatique ce qui s'est passé. Et si vous voulez, je ne voudrais pas que le décès de Rémi soit le détonateur dans les instances politiques nationales d'un nouveau phénomène. Voilà, maintenant je vais au contact. Je vous rejoins en partie. Mais approuver ou désapprouver, je le respecte. Mmh. Vous n'êtes pas d'accord, tout à fait. On peut en parler. On peut aller plus loin dans le débat. Mais dorénavant, notre population, nos générations montantes, en milieu rural et en milieu citadin, attendent, si vous voulez, ce contact. Mmh. Moi, je pense que constitutionnellement parlant, au niveau de l'éthique politique, au niveau de la sensibilité des uns et des autres, j'élimine les extrêmes dans tout ça. Mmh. Je répète, j'élimine les extrêmes, les contre tout. Mais je veux dire, les gens sensés, on a des politiques capables, on a des enseignements formidable dans notre pays.
Oui, mais Jean-Louis, je comprends ce que vous dites, parce que c'est vrai, vous avez raison, il y a une aspiration aussi d'une partie des citoyens, parce que malheureusement, il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont un peu lâché l'affaire, si je puis dire, qui ne se sentent plus concernés, qui ont finalement presque oublié que le rôle du citoyen, c'est aussi de participer à la vie de la cité. Mais enfin, c'est vrai qu'on sent que la participation citoyenne vit un peu sous perfusion. On parlait juste avant la pause de la politique de la ville. C'est compliqué de faire participer les citoyens à la prise de décision politique parce que il y a une tentation qu'à la limite, je peux aussi comprendre, d'instrumentalisation, en tout cas de contrôle des élus sur les citoyens. C'est difficile de lâcher la bride aussi là-dessus, sur ce côté-là, Stéphane Beaumont.
Oui, n'allons pas croire que l'abstention va diminuer uniquement en faisant ce genre de propositions.
Ouais.
Tentons de bien faire fonctionner la démocratie représentative, évitons des taux d'abstention de 50, 60 à 70% avant de dire vive le référendum local.
Mmh.
Et le référendum local avec ses conséquences sur toute la France.
Ouais.
Imaginons un référendum local sur Sivens.
Ouais.
Tous les lacs collinaires ou tous les barrages vont faire l'objet d'une jurisprudence ressemblant à celle-là.
Ouais.
Et que sera la volonté générale, sinon la volonté de Sivens multipliée par 1000 barrages.
Oui, mais par
qu'est-ce
exemple,
que c'est que ça?
Je prends un exemple, par exemple,
c'est la deuxième, la troisième mort de Jean-Jacques Rousseau.
Oui, non, mais prenons un exemple, par exemple, on pourrait poser comme question aux citoyens sur une grande ville ou à la campagne aussi. Est-ce que, par exemple, vous êtes pour la privatisation de la gestion des eaux ou est-ce que vous êtes pour la remunicipalisation de la gestion des
eaux? Oui, mais à quoi ça sert d'élire un conseil municipal, d'élire des représentants,
voilà,
d'élire des maires, des conseillers municipaux, des conseillers régionaux, des conseillers généraux, des députés, des sénateurs, si c'est pour le lendemain dire je ne leur fais pas confiance, ne leur faites pas confiance, passez par le référendum local.
Et puis si imaginez qu'on passe à chaque fois par un référendum
Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans une démocratie directe? Je dis peut-être un jour avec la démocratie du numérique.
Oui.
Mais ça, c'est un autre débat.
Il y en a combien, monsieur Onesta, des projets comme celui-ci, comme celui du barrage de Sivens?
Vous imaginez. En Midi-Pyrénées, il y en a déjà une trentaine.
Non, mais voilà, vous imaginez si on doit passer par 30 référendums rien que pour Midi-Pyrénées en France?
C'est une erreur. Ce serait une erreur que d'opposer la démocratie représentative et la démocratie participative. Ce sont des outils qu'il faut utiliser en tant que de besoin. C'est deux formes de légitimité. Il ne faut pas considérer, on le considère trop souvent.
Elles ne sont pas pour l'instant complémentaires.
Voilà, il faut les rendre complémentaires. Vous avez raison, professeur. Mais pour l'instant, rappelez-vous la phrase de Debré sur la France, comment ça fonctionne. On élit un président tous les 7 ans, c'était 7 ans à l'époque, et entre les deux élections, on ferme sa gueule. Ça, ce n'est pas possible. On est au 21e siècle, c'est pas possible. Mais pourquoi les gens ont du mal à participer à ce genre de choses? Parce que souvent, les élus confondent opération de concertation et opération de communication. Combien de fois on a vu dans les comités de quartier des associations participer pour à la fin que tout ça c'est du vent et on fait ce qui avait été décidé au départ, simplement on a fait de la com en chemin. Je crois que le problème il est là. Sur l'enquête d'utilité publique, Le public est consulté pour l'instant. Il faut trouver la petite affichette sur l'arbre communal qui dit qu'il y a une réunion à tel endroit et un dossier qui se balade dans telle commune, visible telle heure auprès de telle personne. C'est très dur. Mais même si toute la population s'exprime et est contre, même si les élus locaux sont contre, même si le commissaire enquêteur est contre, au final, vous avez un obscur fonctionnaire dans un ministère à 1000 km de là qui peut passer outre tout ça. Et c'est ça qui dégoûte les gens. C'est pas le fait de les impliquer ou pas les impliquer, c'est que pour l'instant, chaque fois qu'il y a des choses qui ont été faites de pseudo-consultation, ouais, il y a le passé outre. C'est ça qu'il faut, c'est cette logique-là qu'il faut
casser. D'accord, mais s'il faut qu'on... Confirme au tribunal administratif qui vient annuler les décisions de plusieurs référendums locaux. Après, donc, on pourra toujours questionner la responsabilité.
Oui, mais le référendum local doit
question...
être conforme à la Constitution, ouais, et doit être conforme à la norme à la fois nationale et européenne.
Oui, mais à part que tout se plaide, professeur. Moi, je me rappelle un référendum, ça ne se décide pas forcément comme ça. Il était d'initiative citoyenne, celui-là, tiens, pour le coup, dans le Gers, en restant dans notre région. C'était pour savoir si, oui ou non, on pouvait encourager les OGM dans le Gers. On a demandé à ce que 10%, parce que la règle, c'est 10% des électeurs du Gers devaient signer des pétitions. Voilà. La liste a été vite close parce qu'effectivement, le Conseil général du Gers, qui n'est pas écologiste, qui est socialiste, donc vous voyez, je ne prêche même pas pour
et
ma
Philippe crèmerie. Martin, avant qu'il soit ministre de l'écologie.
Voilà, exact. C'était avant qu'il soit ministre de l'écologie. Ça, je vous laisse cette remarque perfide, même si je peux la partager. Donc, Philippe Martin, président du Conseil général du Gers, a dit, ben voilà, il y a 10% des citoyens de ce département qui disent qu'il faut voter. Et moi, je considère en plus que mon assemblée n'a pas vocation à défendre les OGM parce que ça vient foutre en l'air toute la filière bio que j'essaie de défendre par ailleurs. Qui l'a interdit ? Le préfet, l'État. C'est-à-dire que même quand il y a des mécanismes longs à mettre en œuvre, parce qu'aller chercher des signatures sur le marché pour lancer ça, c'était pas simple. On empêche les gens de réfléchir. Donc la fois suivante, quand vous revenez à votre calepin en disant « il faudrait faire un référendum sur ça », on vous envoie balader.
Et pourtant, cher ami, on avait l'esprit de décentralisation qui, normalement, ne devait pas conduire à ce qu'un préfet annule ce genre de situation.
Oui. Donc, vous voyez, quand vous dites qu'il faut vraiment repenser la
République...
Quand
on a dit « vive la décentralisation », c'était « vive la démocratie de proximité »,« vive la démocratie du dialogue » et « respect aussi pour la démocratie représentative locale ». Et n'oublions pas que les articles que j'ai cités, c'est la loi de 2003 de décentralisation et la loi de 1992.
Bon, Jean-Louis, qui est toujours avec nous aussi...
La Constitution n'est pas restée vaine.
Ils nous ont cassé la baraque, là, Gérard Onesta, Stéphane
non,
Beaumont.
Non, pas du tout. Moi, je peux tout entendre. Oui. Mais je ne peux pas entendre qu'avec de l'épouvante aujourd'hui, dans le secteur de la Vitescu, oui, et Dieu sait si je suis respectueux, moi et les autres, les uns des autres, oui, on puisse avancer dans ce... Mais par contre, moi, je me place en tant qu'élu de la République, et je peux rejoindre un peu M. Onesta en disant, il y a les élus, c'est respectable. Et tous les élus ne sont pas des pourris, que ce soit de droite ou de gauche modérée. Simplement dire aussi que le drame de la vallée du Descou, qui est un drame humain avant d'être un drame économique aujourd'hui, ouais, en faire le fer et en faire quelque part la lumière qui clignote aux yeux du monde, je trouve ça un peu lamentable, quel qu'il soit qui puisse l'exploiter.
Alors vous avez raison de le souligner, Jean-Louis Marty. En même temps, je suis pas certain qu'on puisse pour le coup soupçonner François Hollande de vouloir exploiter politiquement la mort de Rémi Fraisse. C'est plutôt une espèce d'opportunisme, je pense, qui l'a conduit effectivement à remettre sur le devant de la scène cette idée des référendums locaux dont on voit qu'elle est encore très imparfaite, la mécanisme est très imparfaite. Il faudrait revoir des choses pour que véritablement ça semble pertinent.
Hollande nous a donné rendez-vous dans 6 mois. Je vous rappelle que lors de son passage sur TF1, il avait donné rendez-vous dans 8 jours pour donner toute la vérité sur l'enquête administrative sur Rémi Fraisse. Les 8 jours sont passés, on n'a toujours rien.
Mais dans 6 mois, qui s'en rappellera rendez-vous 6 mois après.
Dans 6 mois.
Qui s'en rappellera? Eh bien nous, par exemple, on sera là pour peut-être le lui rappeler.
On reviendra.
Seul contre tous, 0826 300 300, 15 centimes la minute. Vous restez avec nous pour les toutes dernières minutes de l'émission dans un petit instant.
Seul contre tous.
Sud Radio.
Dimitri Pavlenko.
Alors, qu'est-ce qu'il va advenir dans un futur proche de ces référendums locaux? Personnellement, je suis plutôt sceptique parce qu'on l'a vu effectivement. Déjà, c'est un outil très imparfait. La mécanique institutionnelle est quand même très faible. Il y a beaucoup de freins, beaucoup de résistances pour empêcher que cela n'aboutisse. C'est trop facile à bloquer, effectivement. Par exemple, à l'initiative d'un préfet, Gérard Onesta nous faisait l'exemple gersois concernant les OGM il y a quelques instants. Alors, effectivement, on cite beaucoup l'exemple suisse quand on parle de ces fameuses votations. En Suisse, on a des référendums sur tout et n'importe quoi aussi, Stéphane Beaumont.
surtout et n'importe quoi. Ils sont populaires dans un premier temps, très médiatisés. Ils deviennent populistes. On a des référendums sur le vote des femmes. On a eu des référendums sur
le niveau du
les impositions. On a eu des référendums
sur
les immigrés, le statut des étrangers. Et donc, c'est des référendums qui sont toujours très limites et qui semblent poser un problème de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme. Et je crois que Gérard Onestal disait tout à l'heure, il faut passer d'abord par une sorte de contrôle de constitutionnalité et de respect des droits fondamentaux avant de s'engager sur une voie qui est, de toute façon, ontologiquement, j'allais dire, populaire, mais qui peut très rapidement basculer dans le populisme.
Oui, puis référendum, vous rappelez qu'on peut parler de plébiscite aussi. Hein,
ça oui, alors je rappelle que le mot plébiscite est formé du mot latin plebs, le peuple, et que longtemps, le référendum a été la voix du peuple, le plébiscite, et qu'il a fallu attendre Napoléon Ier et Napoléon III pour que ce plébiscite acquiert, donne au référendum une connotation péjorative.
Oui. Monarchiste.
Alors justement,
monarchique ou impérial, Gérard ?
En l'occurrence, impérial.
Sous la Troisième République, précisément, dans les années 1880-1900, il y a eu beaucoup d'élus monarchistes et boulangistes qui plaidaient pour qu'on développe, qu'on codifie le référendum local. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2014, quand un président de la République socialiste vient remettre cette idée sur le devant de la scène, on peut dire que fondamentalement ça a changé? Est-ce qu'il y a eu une sorte de mûrissement de la démocratie pour aller dans ce sens-là, ou est-ce qu'on est uniquement, là, pour le coup, dans un coup d'un soir, finalement, cette histoire de référendum local avancée par François Hollande?
Je crois qu'il faut bien comprendre que le référendum, ça peut être le pire ou le meilleur des outils. Et quand des populistes, notamment monarchistes ou extrémistes, s'en saisissent, vous êtes sûr, à coup certain, que c'est certainement la pire des utilisations possibles qu'ils veulent en faire. Voilà pourquoi il faut vraiment border, une fois de plus, chiche. Monsieur Hollande, vous voulez, parmi la boîte à outils, qu'on reparle de démocratie participative, chiche. Mais il faut le border avec soin, sinon ça peut être la pire des choses. Le problème avec Hollande, c'est que sa parole politique est démonétisée. Quand il y a quelques mois, il disait le département s'est terminé, bon, on voit qu'ils sont maintenus ad vitam aeternam. Là, quand il nous dit qu'il va parler de démocratie participative dans 6 mois, qu'est-ce qu'il va en sortir?
Et on aurait pu avoir des référendums locaux sur les fusions des régions aussi.
Oh, exactement. On pourrait être... Et je vous signale d'ailleurs que la charte européenne fait obligation, texte signé par la France, fait obligation quand on modifie des surfaces d'entités territoriales de consulter les populations. Donc vous voyez que la France est capable de s'asseoir sur tous les textes qu'elle a signés par ailleurs.
Oui, Stéphane Beaumont.
Oui, je voudrais juste répéter parce que ça me paraît important pour l'avenir. Je pense que le référendum local aura un vrai destin et qu'il échappera au populisme le jour où la démocratie numérique existera, et elle n'est pas loin.
C'est quoi la démocratie numérique? C'est on vote sur Internet?
C'est le vote par Internet, l'immédiateté...
Voilà, on pourra voter tous les matins.
Attends, que c'est pas l'UMP qui l'organise.
C'était gratuit, ça.
Non, mais je crois que nous rentrons dans l'ère du numérique et que nous aurions tort de ne pas en parler dans ce débat qui est important pour l'avenir de la démocratie.
Bon, les 19 qui nous restent, on a raison.
Le numérique devrait être bordé également.
Absolument.
Et je rappelle à Gérard, mais il le sait, que qu'a été écrit au mois de mars 2014 une déclaration des droits du numérique, et aujourd'hui la déclaration des droits de l'homme et du citoyen devrait être réécrite à l'aune des problèmes que posera le numérique.
Alors si ça prend autant de temps en tout cas de promulguer ces textes autant que la loi organique théoriquement qui encadre aujourd'hui nos référendums locaux, on n'est pas près de l'avoir arrivé. En tout cas, merci Stéphane Beaumont d'avoir participé ce matin à Seul contre tous. Merci à vous aussi Gérard Onesta, conseiller régional Europe Écologie Les Verts.